Pour le moment, aucun traitement curatif n'a été mis en place pour contrer le virus. Il faut donc recourir à ce qu'on appelle des NPI, des méthodes non pharmaceutiques, sociétales, sociales et comportementales. Donc, le gouvernement français a choisi parmi elles le confinement de toute la population. Docteur Guillaume Daruy, selon toi, quel problème est-ce que cette décision soulève, tant d'un point de vue médical que sociétal, et quelle solution aurait dû privilégier l'État français pour limiter la propagation du virus?
Alors déjà, peut-être on peut refaire un petit historique depuis le début de l'épidémie, puisque en fait le problème de gestion du gouvernement, il commence dès le début, c'est-à-dire on se rappelle les propos d'Agnès Buzyn à la mi-janvier, disant, enfin banalisant un peu les possibilités d'arrivée du virus sur le territoire. Et au fond, les pouvoirs publics français n'ont pas pris la mesure suffisamment rapidement déjà du risque d'invasion par le virus, alors qu'on sait bien que les Chinois voyagent dans le monde entier et pas de raison que le virus ne soit pas amené par des touristes chinois qui passeraient la frontière. Ce qui s'est passé au départ, c'est que les pays proches de la Chine, par exemple Singapour ou Taïwan ou Hong Kong, eux par contre, dès que le gouvernement chinois a alerté l'Organisation mondiale de la santé de ce qui se passait en Chine et des premiers cas de coronavirus, ils ont tout de suite mis en place une stratégie qui a consisté à isoler les voyageurs en provenance de la Chine. Quand je dis tout de suite, c'est-à-dire par exemple à Singapour, au bout de 3 jours après l'annonce du gouvernement chinois, donc très très tôt. Et le protocole qu'ils ont établi, c'était d'isoler les gens, de faire le test, puisque le test existait. Il a été mis en place très vite, puisque c'est des technologies biologiques simples qu'on connaît depuis longtemps, parce que la technologie de dépistage des virus a énormément progressé, notamment au cours de l'épidémie du sida. Donc du coup, les tests existaient, et donc ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement, par exemple, de Singapour, qui a eu une performance assez brillante sur la gestion de la crise, a isolé les voyageurs en provenance de Chine, les a testés, les a mis en quarantaine immédiatement, et ils ont fait des enquêtes extrêmement poussées pour retrouver tous les cas contacts, c'est-à-dire toutes les personnes qui avaient été en contact avec les personnes dont les tests étaient positifs. Et de la même façon, ils les ont testés et ils les ont tous isolés dans une quarantaine efficace. C'est-à-dire que, non pas chez eux, comme nous on l'a fait par la suite, mais dans des lieux dédiés, pas dans des hôpitaux, mais dans des lieux qui ont été réquisitionnés, comme des bâtiments en construction ou des maisons de retraite, des choses qui n'avaient pas d'usage particulier. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, tous les cas testés, déclarés de coronavirus, et tous les cas contacts ont été coupés de la population, et ça a limité de façon très efficace la dissémination du virus de façon très précoce. Nous, on n'a pas fait ça, c'est-à-dire qu'en France, d'abord, il y a eu une perméabilité très importante à l'arrivée des Chinois pendant un certain temps. D'ailleurs, le premier cas décédé en France, c'est un homme chinois de 80 ans. Et donc, on n'a pas non plus fait ces enquêtes sur les cas contacts. C'est-à-dire qu'on a testé les gens qui présentaient des symptômes évidents de la maladie, mais les enquêtes sur les cas contacts ont été assez limitées. On a isolé quelques cas contacts au début, et très vite on est passé à une mise en place d'isolement à domicile, ce qui se fait toujours, pour les cas contacts, c'est-à-dire les gens qui ont été en contact avec des personnes notoirement infectées. C'est-à-dire qu'il y a les gens infectés et les gens qu'ils ont fréquentés. Donc ce qui a été défini plus ou moins par les scientifiques, c'est que c'était 48 heures avant la déclaration de l'infection que c'était essentiel de retrouver les gens qui avaient été en contact, sachant que entre la déclaration de l'infection et le moment où le virus entre dans l'organisme, la moyenne est de 5 jours, c'est ce qu'on appelle la période d'incubation. Le virus, vous êtes en contact avec, Ensuite, il faut à peu près 5 jours en moyenne pour que les premiers symptômes se déclarent. Donc à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est malade, on a compté 48 heures. Donc nous, donc en France, les gens qui ont été en contact avec des gens qui étaient infectés ont été assez rapidement mis à domicile chez eux. Ce qui est un problème parce que fondamentalement, il n'y a pas de raison, même si on dit aux gens restez chez vous, que des gens qui pour le coup sont dangereux en termes de contagiosité potentielle, puisqu'ils ont été directement en contact avec des gens infectés, il n'y a pas de raison qu'ils restent cloîtrés chez eux, qu'ils aient aucun contact avec personne. Comment ils font pour faire leurs courses? Comment ils font pour organiser leur vie en étant cloîtrés? Il faut bien qu'ils aient des contacts avec quelqu'un. C'est pour ça que, par exemple, les dispositifs qui ont été mis en place à Singapour ou en Asie, qui consistaient à mettre les gens en quarantaine dans des lieux dédiés, comme ça les gens n'avaient pas besoin de sortir, ils pouvaient effectivement avoir à manger, être surveillés médicalement, etc., etc. Donc ça, c'est une première carence de prise en charge au début de l'arrivée de l'infection en France. Et donc, ça a contribué à propager le virus dès le départ, quoi. Donc, en conclusion, pour ce point-là, on n'a pas du tout pris la mesure de la gravité de la possibilité de propagation du virus en France. Insuffisamment, en tout cas.
Tu évoques dans ta tribune justement une étude qui a été prépubliée le 3 mars dernier par un groupe de chercheurs internationaux qui expose des modèles statistiques de simulation réalisés à partir du déroulement réel de l'évolution de l'épidémie en Chine. Donc les résultats de cette étude montrent que les façons les plus efficaces d'endiguer la propagation du virus sont la détection précoce et l'isolement des personnes contaminées. On l'a vu, tu l'as dit, pour Singapour, 187 cas, donc zéro décès. Taïwan, c'est 50 cas détectés, un décès. Et Hong Kong, 131 cas, quatre décès. En France, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du gouvernement pour qu'ils ne comprennent pas l'importance de cette détection précoce et de l'isolement des personnes? Est-ce que c'était un manque de moyens?
Alors, non, au départ, ce qui s'est passé, c'est qu'on a détecté que les cas avérés, c'est-à-dire des gens qui avaient le tableau complet de la maladie, c'est-à-dire une toux, un syndrome grippal, une fièvre élevée et une détresse respiratoire, puisque le principal problème du coronavirus, c'est la détresse respiratoire, c'est-à-dire que les gens n'arrivent plus à respirer parce que le virus bloque certains récepteurs au niveau des poumons. Et dans les cas, les formes extrêmement graves, celles qu'on redoute, le poumon ne respire plus. Ce qui implique que dans les prises en charge en réanimation, les gens aient besoin d'une circulation extracorporelle, c'est-à-dire on fait sortir le sang du corps pour l'oxygéner à l'extérieur, parce que les poumons ne fonctionnent plus du tout. Donc, ce qui s'est passé, c'est que en France, on a tout de suite testé uniquement les cas avérés. On a dit, il n'y a pas de raison de tester plus que les cas avérés. Et donc, même les cas contacts, c'est-à-dire ceux dont je parlais tout à l'heure, les gens qui ont été en contact avec les gens qui étaient infectés, n'ont pas forcément été testés à partir du moment où ils ne présentaient pas de symptômes de la maladie. Et ça, c'est un problème, parce que comment vous pouvez savoir ce qui se passe dans l'organisme de quelqu'un si vous ne faites pas le test biologique? C'est pas possible. Pour être sûr, par exemple, qu'un cas qui a été en contact avec quelqu'un qui a la maladie est atteint ou pas, il faut le tester. Il n'y a pas d'autre solution. Et en France, on n'a pas voulu faire ça.
Ça permet de repérer les porteurs sains, en fait, quand on fait un dépistage massif.
De repérer les porteurs sains, et ça permet de confirmer le diagnostic chez des gens qui ont été en contact, et même de façon très précoce. Par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un hier qui porte le virus, si on vous fait le test, on sait tout de suite si vous avez été contaminé ou pas. Alors que nous, on est resté à l'aveugle. Et ça ne change pas. Et d'ailleurs, lundi, le président de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, il a déclaré publiquement, vous ne pouvez pas combattre un incendie les yeux fermés, tester, 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 en appelant tous les gouvernements à intensifier la généralisation du test de dépistage. Et 2 jours plus tard, c'est-à-dire hier soir, Didier Véran, donc le ministre de la Santé, déclarait au milieu de France Inter, au micro de France Inter, que, il était inutile de tester systématiquement. Donc le discours du gouvernement reste le même depuis le début de l'épidémie, c'est-à-dire de limiter les tests aux cas qui présentent les symptômes, point final. en contradiction totale avec, d'une part, l'expérience des pays d'Asie qui ont de l'avance sur nous, puisque le virus est arrivé plus tôt chez eux, en contradiction totale avec l'avis qui commence à être généralisé dans la communauté scientifique internationale, et en contradiction totale même avec les recommandations du président de l'OMS. Donc on est en décalage complet en France, et on est une exception dans le monde par rapport à la logique scientifique médicale de détection de la propagation du virus.
Alors, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la France, la Chine et d'autres pays sont dans de moindres mesures ont adopté la méthode du confinement. Aujourd'hui, le gros de la crise est passé en Chine. Est-ce que ça signifie que le confinement est quand même efficace ou qu'il faut le coupler avec du dépistage?
Alors, le confinement tout seul, ça n'est pas suffisamment efficace. Dans l'étude dont tu parlais tout à l'heure, que je cite dans la tribune que j'ai publiée dans Libération, il est bien explicité que la première mesure qui est efficace pour limiter la propagation, c'est de poser un diagnostic biologique, de faire le test et d'isoler les cas. Donc, effectivement, le confinement peut être intéressant, mais pas en premier lieu. Le confinement, c'est une mesure qui arrive en deuxième lieu, en plus des premières mesures. Puisque l'association des deux, du confinement plus du testage et de l'isolement strict des cas et des cas contacts, l'ensemble de ces mesures a de l'effet. Mais en France, comme on ne fait que du confinement et qu'on est aveugle sur, au fond, la propagation de l'infection dans la population générale, ça ne peut pas être vraiment radicalement efficace. Et d'ailleurs, le professeur Didier Raoult, qui fait partie du comité scientifique de conseil du gouvernement Macron, ils sont 11, hein, il y a 11 scientifiques qui sont des spécialistes des maladies infectieuses, de l'épidémiologie, etc., dit depuis le début que le confinement, ça ne sert à rien en tant que tel, et que ce qu'il faut absolument faire, c'est tester les gens pour savoir s'ils sont porteurs du virus. Et d'ailleurs, il y a un des rares dans son service de maladies infectieuses à Marseille à faire des tests de façon massive, c'est-à-dire qu'il fait 1000 tests par jour, sachant que, bon, par exemple, je regardais hier sur Internet, à Rennes, on fait 100 tests par jour. Donc il y a vraiment des poids, des mesures sur la détection qu'on réalise dans la population. Et le problème de ne pas tester, c'est que le confinement, il est en place, mais les gens continuent à aller dans les magasins. Il y a un certain nombre de gens qui travaillent, il y en a quand même pas mal encore. Et donc ça circule, ça continue à circuler. Donc le confinement en tant que tel, ça ne suffit pas. Ce qu'il aurait fallu faire en pratique, ça aurait été tester de façon beaucoup plus large dès le début. Bon, évidemment, isoler aux frontières toutes les personnes qui rentraient et qui étaient à risque. Et si on l'avait fait, on n'en serait probablement pas là. Sachant qu'il faut savoir aussi que par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, au départ, les tests n'étaient effectués que dans des centres de référence. Mais il y en a quand même plus de 40 en France, et il y avait une capacité à tester qui était quand même relativement bonne en quantité de personnes, et donc on pouvait dépister de façon beaucoup plus large que ce qu'on a fait. On n'avait pas des capacités énormes forcément, mais aussi probablement à mon avis parce que le gouvernement, n'ayant pas pris la mesure de l'importance des tests au départ, n'a pas fait en sorte que ce soit possible. Mais on aurait pu tester beaucoup plus. Et alors maintenant, c'est encore plus ridicule de ne pas tester, puisque là, depuis quelques jours, un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques, et il y a d'ailleurs tout un enjeu économique pour eux, ont produit des kits de tests qui ne nécessitent plus d'être effectués dans des centres de référence, c'est-à-dire dans des hôpitaux, dans des CHU, mais ça peut se faire en ville. C'est-à-dire que les laboratoires de ville ont la possibilité, avec ces kits, de faire le test de dépistage du Covid-19, et on ne le fait pas. Ça, c'est un problème, puisque là, on voit bien que déjà, on était très en dessous de notre capacité à tester la population, mais qu'en plus, là, cette capacité à tester augmente de jour en jour avec la production d'une quantité très importante de tests et qu'on continue à sous-tester. Pour donner une idée, par exemple, nous sommes en France 67 millions d'habitants. Le 5 mars, on avait réalisé 6628 tests. En Corée, ils sont 51 millions d'habitants, donc 16 millions de moins, et ils avaient réalisé 248 647 tests. 250 000 contre 6 000, on voit bien qu'il y a quand même un problème, quoi. Parce que la Corée, il faut savoir que là, actuellement, ils sont en train d'endiguer l'infection, c'est-à-dire qu'il y a une réduction de la mortalité et du nombre de cas diagnostiqués par jour. Donc la Corée est en train de maîtriser le virus depuis quelques jours, là, et pas nous, puisque nous, on est en augmentation croissante.
Bon, le gouvernement n'a pas pris les bonnes décisions au départ, mais à présent, donc, les mesures qu'il faudrait prendre, ce serait dépistage massif, mise en quarantaine stricte, des cas contacts, c'est ça qu'il faudrait faire pour pouvoir endiguer la
Tester
maladie.
beaucoup plus. Alors, d'une part, les cas qui sont en contact, qui ont été en contact avec des gens positifs au test. Donc, il faudrait tester ces gens qui ont été en contact avec les malades. Il faudrait tester plus largement dans la population générale les gens qui présentent des symptômes, même pas très spécifiques, parce que le gouvernement continue à dire que oui, on va pas vous tester juste parce que vous toussez et que vous avez un syndrome grippal. Or, étant donné que déjà ce sont des symptômes qui sont quand même évocateurs de la clinique du coronavirus, il faudrait les tester beaucoup plus. Et en plus, on sait maintenant que les symptômes du coronavirus peuvent être absents, ou alors ça peut se manifester par une diarrhée, une conjonctivite, des choses assez banales, et que du coup, on peut très bien être un porteur du coronavirus et le diffuser un peu partout autour de soi, voilà, en n'ayant pas grand-chose en fait. Donc là, il faudrait tester beaucoup plus les gens qui ont été en contact avec les gens malades, les gens qui présentent des syndromes infectieux d'une façon générale, et notamment une toux. Et on ne veut pas le faire. On continue en France. Donc Didier Véran l'a redit hier soir, on ne testera pas plus les gens, quoi. La seule chose qui a été faite, c'est qu'ils ont élargi très légèrement le 10 mars les tests aux personnes qui sont en EHPAD, aux femmes enceintes, mais ça reste très très limité et c'est très insuffisant comme élargissement du test.
Au-delà des ravages sanitaires, l'épidémie du Covid-19 va avoir de grosses répercussions sociétales, notamment en France, du fait du confinement total de la population. À l'inverse, à Singapour, seuls les grands rassemblements ont été suspendus et les écoles et les lieux de travail ont pu rester ouverts, les étudiants, les personnels étant soumis à des contrôles de santé quotidiens. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le pays, du coup Singapour, se retrouve moins touché par la crise économique qui risque de suivre la crise sanitaire?
Oui, en effet, oui, Singapour, de toute façon, pour peu que tu ailles sur Instagram voir la vie des gens à Singapour, c'est pour nous, dans l'environnement dans lequel on vit, c'est surréaliste. Les gens vivent leur vie, vont boire des cafés, les gens se photographient, font des selfies autour d'un jus dans un bar. Enfin, bon, les gens vivent normalement, quoi. Et donc, effectivement, pour eux, l'économie a été beaucoup moins touchée et là, elle est repartie depuis longtemps, en fait. Donc nous, effectivement, notre économie. Alors, notre économie, il faut voir quoi, parce que qui est touché par la crise? Ce sont quand même avant tout les petites entreprises, les petits producteurs agricoles, parce que les gens se précipitent dans les grandes enseignes, dans les supermarchés pour acheter des boîtes de conserve et des choses fabriquées dans des usines. Et au fond, l'agriculture, notamment ici en Bretagne, les agriculteurs ont du mal à écouler leurs produits parce que les gens vont plus volontiers dans des grandes enseignes. Là, en plus, jusqu'à présent, les marchés étaient restés ouverts. Il est question, alors je ne sais pas exactement où ça en est aujourd'hui à l'heure où nous parlons, mais enfin il est question qu'éventuellement les marchés ferment, ce qui serait une catastrophe pour l'agriculture en général en France. Et donc les gens qui sont impactés, ce sont effectivement les petits agriculteurs, les petits producteurs, les petites entreprises, les petits entrepreneurs, bien sûr le secteur de la culture, etc. Par contre, il faut savoir que les grandes enseignes que je ne citerai pas de grande distribution, depuis les mesures de lundi, ont au moins doublé leur chiffre d'affaires dans le contexte actuel, puisque les gens se précipitent dans les supermarchés pour faire du stock. Donc voilà, la crise, c'est pas pour tout le monde, quoi. Il y a quelque chose aussi qu'on passe sous silence, et je voudrais que quand même ça s'entende, c'est que le professeur Didier Raoult, dont j'ai parlé tout à l'heure, a mis en évidence qu'il existe un traitement du coronavirus qui passe par la chloroquine, qui est un dérivé de la quinine. La quinine, c'est un produit naturel. La chloroquine, on l'utilise dans le traitement du paludisme et de certaines maladies auto-immunes. Voilà, il fait des essais avec une association avec un antibiotique de la famille des macrolides qui s'appelle l'azithromycine, et il a eu des succès dans son service, c'est-à-dire que l'effet de ce traitement par la chloroquine, c'est de faire disparaître le virus de l'organisme. Et on sait que, comme je le disais tout à l'heure, le problème, c'est que la présence du virus dans l'organisme est ce qui cause les symptômes les plus graves, c'est-à-dire la détresse respiratoire. Voilà. Alors, c'est pas le professeur Didier Raoult qui a découvert ce traitement, puisqu'en fait, c'est un professeur chinois qui s'appelle le docteur Chong Nanshan, qui a découvert le premier ses effets en Chine. Et actuellement, il faut savoir quand même que en Chine, on traite les gens par chloroquine, en Arabie Saoudite également, et en Corée, et maintenant on commence à le faire en Iran, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays qui commencent à traiter les cas, et, ou qui ont déjà l'habitude de traiter les cas par chloroquine. Et ça, quand même, c'est assez spectaculaire de voir que le gouvernement français passe ça complètement sous silence, qu'il y a même un discours presque de méfiance à l'égard de ces traitements, disant que voilà, on n'a pas assez de preuves, etc., etc. Comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir que le professeur Didier Raoult fait partie des conseillers du gouvernement, mais il n'est absolument pas écouté. Il disait l'autre jour dans une interview pour Marianne qu'il dit ce qu'il pense, mais que ce n'est pas traduit en acte et qu'en fait ce ne sont pas des conseils scientifiques mais des conseils politiques. Donc on voit bien que le refus de tester plus massivement les gens pour faire le diagnostic, le fait de passer l'existence d'un traitement, même s'il n'est efficace que sur 3 personnes sur 4, c'est déjà énorme, est une volonté du gouvernement de passer quelque chose sous silence. Et on se pose des questions sur l'usage que Emmanuel Macron fait du confinement. Alors, si je peux me permettre de donner mon avis sur la question, ça semble quand même une certaine opportunité pour lui, alors que la France était vraiment très en colère contre ces mesures, notamment la réforme des retraites et le passage du 49-3. Et là, voilà, Emmanuel Macron se présente un peu comme le sauveur de la France. Il y a plein de gens qui saluent son courage politique, là où en fait, derrière, il s'avère que les mesures qu'il prend ne sont pas les bonnes du tout, et que même il passe sous silence volontairement, semble-t-il, dans sa communication médiatique, un certain nombre de données qui sont très encourageantes pour l'évolution de la maladie. Alors, quelles seront les conséquences de ça? Les gens sont quand même confinés chez eux, avec des répercussions sur leur morale, sur leur angoisse. Et je veux dire, si on met pas en place de façon plus large le test et les traitements qui semblent avoir une efficacité, on risque d'avoir plus de cas, plus de morts, et voilà, ça sera la responsabilité d'Emmanuel Macron d'avoir soutenu sa politique jusqu'au bout en dépit d'une logique scientifique évidente.